Bonjour Jo. Pour commencer, pouvez-vous résumer brièvement l'idée centrale de votre article pour nos auditeurs?
Bonjour. L'article part d'un constat simple mais dérangeant. L'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis existe. Il est juridiquement opérationnel, mais il est pensé comme un objet abstrait, réservé aux États. Or, sa véritable clé, d'activation est humaine. Elle se trouve dans la diaspora congolo-américaine qui occupe une position centrale dans l'architecture de l'accord, sans être reconnue ni mobilisée comme telle.
Pourquoi parlez-vous d'un pont stratégique négligé?
Parce que ce pont relie deux espaces juridiques, économiques et politiques. Il ne s'agit pas d'un pont symbolique, mais d'un pont humain. La diaspora congolo-américaine est juridiquement américaine et culturellement congolaise. Elle est donc structurellement positionnée pour faire circuler compétences, normes, capital organisationnel et crédibilité institutionnelle. Or, ce pont existe sans être emprunté.
Vous insistez beaucoup sur la manière dont la diaspora est perçue. Quel est le problème fondamental selon vous?
La diaspora est enfermée dans une fonction unique, celle du transfert d'argent. Elle est pensée comme une caisse de compensation privée, jamais comme un acteur stratégique. Cette réduction est une erreur lourde. Elle empêche toute projection à long terme et neutralise l'idée même d'investissement productif fondé sur les compétences.
L'accord RDC-États-Unis est-il réellement favorable aux Congolais vivant au pays?
Pas directement. L'accord est explicitement structuré en faveur d'acteurs juridiquement américains. La propriété, le contrôle et la gouvernance des projets stratégiques doivent rester alignés sur les intérêts américains. Les Congolais vivant exclusivement en RDC sont donc largement exclus des mécanismes centraux, sauf s'ils passent par un acteur juridiquement éligible.
Et c'est là que la diaspora congolo-américaine devient centrale.
Exactement. Elle est l'unique groupe qui réunit à la fois l'éligibilité juridique et la légitimité sociale congolaise. Aucun autre acteur ne combine ces deux dimensions. C'est un avantage comparatif majeur, mais totalement sous-exploité.
C'est fou, non? Pourtant, vous montrez que cette centralité n'est pas perçue même par la diaspora elle-même.
Oui. La diaspora se perçoit encore comme marginale, comme extérieure au grand dispositif. Or, l'accord est déjà écrit de manière à l'inclure implicitement. Le problème n'est pas juridique, il est cognitif et stratégique.
Vous parlez aussi d'une préférence structurelle pour les intérêts, américains. Pouvez-vous expliquer?
L'accord ne repose pas sur une logique de marché neutre. Il impose un alignement stratégique explicite. Même lorsque des partenaires non américains sont admis, leur part est appelée à diminuer dans le temps. Le contrôle, plus que la propriété, doit rester américain.
Dans ce cadre, quel rôle réel peut jouer la diaspora congolo-américaine?
Un rôle pivot. Elle peut structurer les projets, sécuriser la gouvernance, assurer la conformité juridique et introduire des standards organisationnels solides. Elle peut aussi donner une façade congolaise crédible à des projets stratégiques, ce qui est politiquement utile pour toutes les parties.
Vous évoquez une menace directe sur les mécanismes traditionnels de rétrocommission. Pourquoi?
Parce que l'accord importe avec lui le droit pénal américain, les lois anticorruption s'appliquent extraterritorialement. Pour les membres de la diaspora congolo-américaine, les arrangements opaques deviennent des risques pénaux réels et non plus des coûts négociables.
Cela rend-il la diaspora congolo-américaine indésirable pour certains acteurs locaux?
Oui, structurellement, elle introduit de la traçabilité, de la contrainte et de la responsabilité là où certains préfèrent l'opacité. C'est pas une question morale, c'est une incompatibilité de modèle.
Vous montrez aussi que la RDC n'a pas véritablement intégré la diaspora dans sa communication diplomatique.
Absolument. Les ambassades parlent de l'accord comme d'un texte étatique, jamais comme d'un espace d'action concret pour la diaspora. C'est un angle mort institutionnel majeur.
Vous distinguez différents profils au sein de la diaspora. Pourquoi est-ce important?
Parce que tous les retours ne se valent pas. Certains reviennent pour construire, transmettre, investir durablement. D'autres reviennent pour extraire rapidement. Ne pas distinguer ces profils revient à neutraliser toute politique sérieuse de mobilisation.
Vous affirmez que le véritable capital précède toujours l'argent. Pouvez-vous préciser?
Dans toute économie stratégique, le capital humain vient avant le capital financier. Ce sont les compétences, les normes, les pratiques organisationnelles qui structurent les flux financiers, pas l'inverse.
À vous entendre, les États-Unis pourraient tirer avantage de ce pont humain.
Tout à fait. En mobilisant la diaspora congolo-américaine, ils sécurisent leurs projets, facilitent l'acceptabilité locale et affichent une forme de leadership congolais même lorsque le contrôle stratégique reste ailleurs.
Mais la responsabilité principale reste congolaise, selon vous.
Oui, la RDC doit décider si elle veut transformer cet accord en puissance réelle ou le laisser fonctionner sans apport congolais substantiel. L'inaction est déjà un choix politique.
À un moment donné, vous suggérez que, malgré les discriminations implicites de l'accord, les Congolais devraient américaniser leurs initiatives. Que voulez-vous dire?
Cela signifie comprendre les règles du jeu et les utiliser. L'accord est structuré selon des normes américaines. Refuser cela par principe revient à s'auto-exclure. La diaspora congolo-américaine peut servir de vecteur d'américanisation stratégique des initiatives congolaises sans renoncer à leur substance.
Cette américanisation passe-t-elle par la diaspora congolo-américaine comme levier au profit des Congolais?
Oui, et l'exemple de l'application Lokota l'illustre très concrètement. Lokota est une de mes initiatives conçues pour répondre à un problème profondément local, la gestion des déchets et de l'insalubrité urbaine, mais structurée dès le départ selon des standards organisationnels, technologiques et de gouvernance compatibles avec l'écosystème américain. Ce type de projet n'existe pas durablement sans l'implication de membres de la diaspora congolo-américaine qui apportent à la fois l'éligibilité juridique, les compétences techniques et la crédibilité institutionnelle nécessaire pour le rendre lisible et opérable dans le cadre de l'accord. C'est cela que j'appelle l'américanisation stratégique. Il ne s'agit pas de renoncer à des objectifs congolais, mais de traduire ces objectifs dans un langage institutionnel et organisationnel compatible avec les règles du jeu dominantes afin qu'ils puissent réellement produire des effets au bénéfice des Congolais.
Quel est, selon vous, l'élément clé pour que les Congolais puissent réellement utiliser cet accord?
Le développement du capital humain sans ambiguïté, sans compétence, sans expertise, sans organisation, l'accord reste un texte juridique sans prise sur le réel. Avec un capital humain structuré, formé et institutionnalisé, il devient un véritable levier stratégique. Pour parler concrètement, je peux évoquer l'université Lumumba qui a été pensée précisément autour de cette logique. Même si je ne suis pas citoyen américain, mais résident américain, ce qui compte avant tout, c'est la structuration de l'initiative, sa gouvernance et l'implication majoritaire d'acteurs juridiquement américains, notamment issus de la diaspora congolo-américaine. Pour découvrir d'autres initiatives inscrites dans cette même dynamique, ainsi que l'écosystème plus large dans lequel elles s'articulent, il suffit de consulter VoxOfPoint Online.
Pensez-vous que la diaspora congolo-américaine soit prête à s'auto-activer?
Oui, elle en a clairement la capacité. Les compétences sont là, les réseaux existent et l'expérience institutionnelle est bien réelle. Ce qui manque aujourd'hui, c'est pas le potentiel, mais une prise de conscience collective et une structuration autonome. Trop souvent, la diaspora attend encore un signal de l'État alors que cette attente est devenue contre-productive. Cela dit, cette auto-activation ne peut pas se faire dans le vide. L'ensemble de la nation doit s'impliquer, comprendre l'enjeu et sortir de la passivité. L'État, de son côté, doit créer un cadre clair et fonctionnel permettant à ces acteurs d'exister et d'agir dans des conditions normales, proches de celles auxquelles ils sont habitués dans des environnements où les règles sont stables et où ce qui doit fonctionner fonctionne effectivement. En parallèle, la diaspora congolo-américaine doit avancer, se structurer, rendre ses initiatives visibles et crédibles. C'est en agissant qu'elle forcera l'adaptation du cadre et non en attendant qu'il lui soit donné.
Pour conclure, qu'aimeriez-vous que les auditeurs retiennent et fassent après avoir lu votre article?
J'aimerais qu'ils comprennent que l'accord n'est ni une promesse ni une menace en soi. C'est un cadre. Sans capital humain, il profite aux autres. Avec une diaspora structurée, consciente et organisée, il peut devenir un instrument de puissance congolaise réelle. Le pont existe. Reste à décider si nous voulons le traverser